Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la situation dans le nord-est syrien, en particulier depuis l'offensive militaire turque de l'automne dernier et puis tous les bouleversements stratégiques que celle-ci a provoqué, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Quenet, docteur en sciences politiques, chercheur notamment au sein du programme ERC, c'est-à-dire un programme européen de recherche Social Dynamics of Civil Wars de Paris 1, auteur aussi de l'ouvrage Syrie, anatomie d'une guerre civile, paru en 2016 chez CNRS Éditions, écrit avec Gilles de Ronsoro et Adam Bachko, qu'on avait reçu dans le podcast il y a quelques semaines pour parler de l'Afghanistan. Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Arthur.
Bonjour et merci.
Alors je suis très heureux qu'on puisse faire cette émission parce que pour être très transparent avec les auditeurs, c'est quelque chose qu'on avait essayé de faire, de monter il y a quelques mois, en octobre justement, au moment de cette offensive militaire turque en territoire syrien, face aux forces kurdes avec la semi-bénédiction de l'administration américaine. On reviendra naturellement sur tout ça, mais on avait essayé de le faire sur le moment précisément parce que vous vous trouviez dans la région à ce moment-là, mais le revers de la médaille c'est évidemment que ça a été compliqué matériellement et on a donc dû repousser cela. Et on peut maintenant y revenir un peu plus facilement, malgré le confinement, et donc parler de tout ça avec un peu plus de recul, et une fois que la situation est un peu moins brûlante. Alors, évidemment, on entre probablement dans un des problèmes politiques et géopolitiques les plus compliqués du XXe siècle, au moins quand on parle du Kurdistan, et un podcast ni 10 n'y suffirait pas. Donc je vais devoir résumer un peu rapidement et abruptement les dimensions les plus historiques et géographiques de la question. Évidemment, arrêtez-moi si vous semble manquer quelque chose de central. Mais disons deux données de base par lesquelles on pourrait commencer. C'est peut-être d'abord la répartition de la population kurde dans une région relativement, voire très montagneuse, entre quatre pays aujourd'hui que sont la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Et une deuxième donnée, c'est un mouvement indépendantiste dont on pourra discuter de l'importance, mais qui a toujours l'ambition, au moins théorique, de créer un grand État kurde, comme ça avait d'ailleurs été évoqué, voire promis, à la sortie de la Première Guerre mondiale, État qui, nécessairement, empiéterait sur les territoires de ces quatre pays, qui, par conséquent, n'ont pas toujours vu ça avec beaucoup de bienveillance, c'est le moins qu'on puisse dire, au cours du long XXe siècle. Mais, pour entrer encore plus directement dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, il y a clairement un pays pour qui ce mouvement indépendantiste est plus qu'un problème, mais une menace existentielle, c'est clairement la Turquie, qui lutte de manière acharnée et tout à fait violente contre l'indépendantisme kurde, contre son parti, le PKK, et son chef actuel, Abdullah Öcalan, qui est emprisonné en Turquie sur une île prison depuis 1999. Donc, peut-être pour commencer par là, est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler à quand ça remonte exactement et pourquoi c'est un sujet si sensible politiquement et même stratégiquement pour la Turquie, cette question kurde et ce mouvement kurde ?
Alors, pour y répondre, il faut bien comprendre que la Turquie, au lendemain de la Première Guerre mondiale, a eu très peur de disparaître. Les pertes territoriales de ce qui était à l'époque l'Empire, puis ensuite l'occupation étrangère, les révoltes de prise grecque à l'Ouest, ont poussé l'État turc à mettre en place une doctrine qui voit toute division ethnique ou religieuse comme un danger majeur. On se rappelle du sort qui avait été réservé aux Arméniens. Eh bien, les populations kurdes, qui peuplaient quasiment les mêmes espaces, sont devenues à leur tour un problème perçu comme une menace directe pour la stabilité de l'État turc. Par la suite, les années 70 et surtout 80 ont été en des périodes de guerre civile pour la Turquie, avec des révoltes, coups d'État successifs, une scène politique extrêmement large, extrêmement active, et le mouvement kurde était une tendance politique très plurielle, très divisée en interne, comme l'ensemble, mais voilà, une parmi d'autres. Par la suite, ce qui a permis au PKK de se former, de devenir dominant et de faire donc autant peur à la Turquie, c'est l'aide du régime syrien. Déjà dans la fin des années 70, quand le PKK est créé, eh bien Abdullah Öcalan passe la frontière, va s'installer d'abord dans le nord de la Syrie, puis est accueilli à Damas, et où il pourra monter des camps d'entraînement dans le sud Liban et en Syrie, en bénéficiant du soutien du régime syrien. Et c'est toute une guerre larvée que vont se faire le régime syrien et la Turquie. Le régime syrien instrumentalisant la question kurde pour déstabiliser son voisin turc. Et évidemment, ensuite, le problème a des conséquences directes sur les populations kurdes en Turquie qui ont subi des répressions extrêmement dures et ont encouragé énormément de jeunes kurdes à rejoindre le mouvement armé kurde. Peut-être juste un mot pour rappeler que le mouvement kurde est avant tout un mouvement politique. Et tout mouvement politique, en fait, appelle justement des questions aussi de division interne, de division partisane entre des organisations politiques extrêmement bien organisées, avec des sections locales, tout l'appareil partisan qu'on retrouve dans les partis communistes, sections locales, contrôle politique des militants, police secrète, police clandestine pour contrôler la population. Et ces différents mouvements kurdes vont s'installer. Donc, vous avez donc le PKK qui naît en Turquie, s'installe en Syrie, son état-major, mais également les mouvements kurdes irakiens, puis ensuite les mouvements et même avant ça les mouvements kurdes iraniens. Et ces différents partis politiques sont extrêmement divisés, se mènent des luttes en interne extrêmement fortes, hein, qui sont souvent des formes de guerres civiles entre eux, et des guerres civiles qui sont également instrumentalisées par les États de la région, donc les quatre États dont vous avez cité, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est puisqu'on est vraiment dans une région hyper frontalière, quoi, où passent les frontières entre quatre pays. Voilà, est-ce qu'on pourrait peut-être préciser quelles sont les relations entre ces différents partis, donc soit indépendantistes, soit au moins autonomistes kurdes au sein de ces quatre pays. Ce que je veux dire, c'est que bon, évidemment, il y a des liens historiques et logiques, puisqu'il y a le même appel à un Kurdistan qui empiéterait sur les quatre États qui existent aujourd'hui. Mais en même temps, c'est aussi des luttes indépendantistes face à quatre États différents. Donc, ma question, c'est en fait, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une organisation internationale kurde ? Ce qui est un peu la position turque qui explique leur gestion de la question, comme on le verra. Mais dans quelle mesure est-ce que donc, c'est une espèce d'international ? Et dans quelle mesure est-ce que ce sont quand même des luttes qui sont situées dans des contextes nationaux et même régionaux et qui, du coup, peuvent aussi entrer en contradiction et en opposition entre eux ?
Alors, je pense que vous avez raison d'en parler. Les contextes nationaux sont extrêmement importants et dominants. Le PKK étant un parti transnational, de par son organisation, son mode de fonctionnement, mais qui a toujours existé grâce à un soutien étranger. Le PKK sans soutien étranger, c'est un parti politique qui ne durerait pas, ne résisterait pas plus que quelques années. Mais on y reviendra. Les cadrages nationaux obligent les différents partis kurdes à se concentrer sur les scènes politiques nationales auxquelles ils appartiennent. Par exemple, les partis kurdes irakiens se positionnent par rapport à Bagdad depuis les années 30, 40, de même pour les partis iraniens par rapport à Téhéran, le PKK dont on a parlé, mais également les autres mouvements kurdes de gauche qui ont été éliminés par le PKK, soit dit en passant, et la Syrie vient plus tard. La Syrie vient plus tard, les Kurdes au début ne sont pas forcément présentés comme un problème ethnique et rallient d'autres organisations politiques comme le Parti communiste syrien. Et c'est par la suite que face aux répressions du régime syrien, mais également incité par l'exemple de partis kurdes voisins, les partis kurdes syriens vont commencer à s'organiser. Et c'est là où l'alliance entre le PKK et le régime syrien va jouer de façon déterminante, c'est-à-dire que ça va permettre au PKK d'éliminer, pour le compte du régime syrien, les autres partis kurdes installés en Syrie, enfin les éliminer ou en tout cas les contrôler. Et donc on voit bien dans ce paysage très éclaté, qu'en fait, il n'y a pas de place pour un projet politique d'un grand Kurdistan, à cheval sur quatre pays. Les dynamiques nationales l'emportent.
Ouais, donc les dynamiques nationales l'emportent, et en même temps, donc il y a ce jeu un peu compliqué, et notamment particulièrement entre les Kurdes, enfin les parties kurdes, enfin disons la présence kurde en Turquie et en Syrie. Mais du coup, ça nous amène directement donc dans la question très directe, qui est, disons ce chapitre qui s'ouvre au milieu des années 2010, avec l'importance énorme que prennent les forces militaires kurdes dans la lutte militaire contre l'État islamique à partir de 2014, qu'on a déjà évoqué par exemple dans une émission avec Charles Tepo. Mais simplement avant d'en parler, justement, je voudrais revenir sur ce qui vient juste avant. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que 2014, l'ascension de l'État islamique, etc., la chute de Mossoul, la grande avancée dans le nord-est puis dans le nord-ouest syrien, c'est déjà en quelque sorte un deuxième chapitre dans la guerre civile syrienne qui avait commencé en 2011. Mais du coup, même avant ce moment-là, c'est-à-dire dans ce moment de révolution, de révolte interne à la Syrie, quelle avait été, disons, la position des forces kurdes dans cette première partie du conflit syrien, globalement entre le régime de Bachar al-Assad et l'ASL, l'armée syrienne libre?
Alors, il faut souligner que les Kurdes ont participé fortement à la révolution syrienne dès 2011, hein, dans des manifestations unanimistes, multiculturelles. D'ailleurs, se revendiquer comme kurde ou comme alaouite ou comme chrétien n'était pas dominant au début de la révolution syrienne.
Mais juste,
Et c'est par la suite
je vous
qu'il y a eu
interromps
un
une
travail
seconde,
de...
je vous interromps une seconde parce que justement c'est par rapport à ce que vous expliquiez juste avant, c'est-à-dire le fait que le mouvement kurde soit quand même né du soutien du régime syrien, donc même avant Bachar, donc forcément d'Hafez al-Assad. Est-ce que malgré disons ce soutien et cette alliance en quelque sorte historique contre la Turquie, ça a pas gêné disons dans la jonction entre les forces kurdes qui existaient déjà et les forces disons révolutionnaires
Tout
du
à fait,
Démocrate arabe?
j'allais y venir. Donc les partis politiques kurdes sont dépassés par la révolution, se retrouvent à la traîne, à devoir choisir une stratégie. Et là, vous avez une polarisation politique entre des partis kurdes soutenus par le grand frère kurde irakien, donc le PDK de Massoud Barzani, et le PKK, qui envoie des militants pour essayer et passer un accord avec le régime pour reprendre le contrôle des régions kurdes. Et là, les habitants de ces régions, donc les habitants qui sont majoritairement kurdes, ont dû se positionner pour ou contre une position ethnique. Et en fait, au bout de plusieurs années de conflit, depuis en 2012, 2013, la question ne se posait plus, en fait, parce que vous étiez kurde, vous pouviez être arrêté à un checkpoint, mis en prison par l'ASL ou torturé, etc. Donc en fait, il y a une hiérarchie identitaire qui s'est mise en place dans le conflit, mais qui n'existait pas au départ. Et cette hiérarchie identitaire est directement le travail des partis politiques sur la société, sur les stratégies politiques qui ont progressivement acculé les Kurdes à devoir suivre leur parti et au final le PKK.
Oui, donc c'est la répression qui a créé en quelque sorte la synthèse et la réascension des forces kurdes, quoi.
Tout à fait. La répression au début, hein, donc on a des épisodes dès 2011-2012 où le PKK tire dans des manifestations, arrête les manifestants kurdes, les met en prison, certaines fois remettent au service de sécurité du régime syrien les personnes arrêtées, collaborent ouvertement avec le régime d'ailleurs, hein, reçoivent des armes, passent des accords, etc. Et en fait, très rapidement, les manifestations sont impossibles dans les régions kurdes. Et le régime sous-traite au PKK la répression. Ensuite, cette répression, à partir de 2013-2014, est moins vraie. Pourquoi? Parce que déjà, les autres forces politiques ont été neutralisées par le PKK, donc ne sont plus une menace. Et surtout, de plus en plus de groupes djihadistes, clairs, ouvertement djihadistes, apparaissent dans les rangs en parallèle de l'insurrection syrienne, notamment donc qui va devenir le Jabhat al-Nusra, donc le futur État islamique. Et là, les gens comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Soit ils se rangent du côté du PKK, ils s'organisent pour se défendre, soit ils acceptent la tutelle de l'État islamique.
Ouais, d'accord. Donc c'est malgré ce rôle trouble du PKK au début, il y a un moment où la situation est telle qu'en fait, il y a plus le choix. Disons l'opposition et le souvenir de la répression par le PKK est pas suffisamment fort pour casser, disons la polarisation nécessaire, quoi.
Totalement, et c'est récurrent dans les phases révolutionnaires, c'est-à-dire que les calculs politiques du départ ne sont pas forcément vrais quelques mois plus tard ou plusieurs années plus passées. C'est-à-dire que la temporalité évolue extrêmement vite. Le tempo révolutionnaire oblige progressivement les gens à abandonner certaines revendications qu'ils avaient au départ. Par la suite, le PKK va réussir de cette manière à créer un véritable ancrage local en Syrie, qui est vrai, hein, donc avec une administration qui fonctionne, des gens qui pas forcément qui croient dans les valeurs de la révolution démocratique menée par le PKK, mais bon, les gens doivent s'accommoder d'un régime, d'un système politique, administratif, et faire avec.
Ouais, alors peut-être disons un mot de ce système politique et administratif, puisque vous avez évoqué à plusieurs reprises, disons, la parenté, si ce n'est la filiation avec les partis communistes de la région au départ. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de gestion? Alors évidemment, il va évoluer ensuite dans les années qui suivent, mais disons, qu'est-ce que c'est que ce modèle de gestion d'un territoire par le PKK, c'est-à-dire autour de quels grands principes? Vous avez parlé d'idéaux de révolution démocratique. En quoi est-ce que ça consiste concrètement sur le terrain?
Alors, tout à fait. Donc, c'est des modes de gestion des populations qui ne sont pas nouveaux pour le PKK. Ils sont théorisés dans les années, fin des années 70, 80, mis en pratique dans certaines régions très, très montagneuses, très éloignées, très marginales de la Turquie, dans certains petits villages. Le PKK a également, tient toute une bonne partie de la diaspora kurde en Europe, sur une manne financière, mais également un réservoir de militants qui l'entraînent, qui l'encadrent, et donc progressivement une matrice de gouvernement des populations, un label PKK, s'est mis en place sur le modèle d'un parti communiste qui serait un parti transnationalisé. L'arrestation d'Abdullah Öcalan en 99 et les années 2000 ont été un moment de rupture au sein du parti, pas forcément de rupture, mais en tout cas il y a eu une refondation de la matrice, pas du fonctionnement interne, mais de la matrice institutionnelle, qui, en cas de conquête d'un territoire, devait être proposée aux populations. Et c'est là où, avec un peu de prenant un peu de théorie de Bouchkin, alliant ça aux théories öcalaniennes, finalement, une matrice est née, qui est donc le gouvernement du peuple par le peuple, c'est-à-dire une sorte d'autonomie. Donc créer des comités locaux, qui doivent élire donc des représentants qui ensuite créent des cantons, puis ensuite par la suite donc c'est devenu des régions, et ces régions sont censées ainsi se gouverner par elles-mêmes en s'appuyant sur les anciennes institutions étatiques préexistantes, mais en collectivisant leur gestion. Évidemment, c'est purement théorique. Dans la réalité, donc cette façade institutionnelle existe bel et bien. Mais le commandement revient à des militants du PKK qui sont envoyés à cette fin de développer ces institutions et de créer cette façade, et derrière, évidemment, qui contrôlent toutes les décisions stratégiques. Et ce modèle est testé en Syrie dès 2011, dès 2012. Donc 2011, il y a la prise de contrôle du territoire, puis ensuite le PKK commence à faire sa révolution dans la révolution syrienne et à mettre en place son modèle.
Ouais, bah alors justement, passons ensuite à la prochaine étape, qui est, c'est-à-dire ce modèle et ces forces-là, passées en quelque sorte au révélateur de la guerre contre l'État islamique, puisque à partir de 2014, c'est évidemment l'arrivée de Daesh qui gagne beaucoup de territoire, jusqu'à l'arrivée complètement en territoire kurde, et avec notamment ce qu'on a évidemment appelé la bataille de Kobané, qui est une ville kurde, donc tout au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Évidemment, je ne saurais trop inviter les auditeurs à googler une carte de la région, parce que c'est quand même nettement plus facile pour suivre. Mais Kobané, c'est en même temps une ville qui n'est pas très loin non plus de Raqqa, qui est la capitale de l'État islamique, qui est une grosse centaine de kilomètres au sud. Donc en fait, ma question c'est, militairement, à quel moment est-ce que ça se déclenche vraiment pour les forces kurdes? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'elles se mettent vraiment à se lancer complètement dans la lutte contre l'État islamique? Est-ce que c'est avec la bataille de Kobané que ça se déclenche? Ou est-ce que, disons, les Kurdes perdaient du terrain et que Kobané a été en quelque sorte le dernier point de recul avant de repartir vers l'avant?
Oui, tout à fait. Les premiers combats, en fait, entre les forces kurdes au PKK date de 2012, et avec non pas des forces djihadistes à l'époque, mais avec l'ASL, où les forces du PKK les attaquent, neutralisent les armes, détruisent les unités.
L'ASL, on va juste rappeler que c'est l'armée syrienne libre, donc disons oui, la manière de l'organisme qui a en quelque sorte syndiqué les oppositions au régime de Bachar al-Assad, avec toute l'ambiguïté, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de forces plus ou moins djihadistes qui se sont mis à proliférer, disons, si ce n'est dans son sein, en tout cas dans le périmètre de l'ASL.
C'est ça, et dans le périmètre de l'ASL, notamment, circulait le Jabhat al-Nusra, qui donc terrorisait les autres groupes révolutionnaires syriens, et peu à peu a également fait sa révolution dans la révolution, point à mener à la... Enfin, voilà, on y reviendra plus tard, mais donc les combats, en fait, datent dès 2012-2013, vous avez des affrontements, et les zones kurdes, le PKK tente de sanctuariser les zones kurdes. Et donc, quand Mossoul tombe entre les mains de l'État islamique et donc l'ensemble des régions arabes sunnites irakiennes, l'État islamique se retourne en Syrie, revient en Syrie, dont il avait été chassé par l'armée syrienne libre quelques mois avant. Et là, il y a une attaque simultanée de l'ensemble des poches tenues par le PKK. Et donc, on en arrive à le PKK recule jusqu'à la bataille de Kobané, qui défend ardemment. Et finalement, avec le soutien international que l'on connaît, qui lui a permis, depuis Kobané, ensuite de reprendre l'offensive, jusqu'à reprendre l'ensemble des territoires encore tenus par l'État islamique.
Donc, la bataille de Kobané, en quelque sorte, est un pivot, puisque c'est effectivement le moment où les forces kurdes reçoivent le soutien, puis deviennent le bras armé de la coalition internationale contre l'État islamique, qui vraiment se met en place en 2015, mais dont on sait, on en a déjà souvent parlé, qu'elle veut bien engager des moyens, notamment aériens, mais rechigne beaucoup à engager des troupes au sol, donc ça va être beaucoup le rôle des forces kurdes dans ce contexte-là. Et du coup, ma première question, c'est comment est-ce que tout ça se met en place ? C'est-à-dire, quel est l'accord, s'il y en a vraiment un d'ailleurs, entre les forces kurdes, donc notamment les forces kurdes syriennes, et cette coalition ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une sorte d'alignement temporaire d'intérêts, ou est-ce qu'il y a une sorte de deal plus ou moins explicite qui est passé entre les Kurdes et les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, enfin, entre les puissances occidentales qui décident de s'appuyer sur les Kurdes pour faire reculer l'État islamique ?
C'est une très bonne question. Donc en fait, il s'agit d'un partenariat et pas d'une alliance stratégique. Et la différence est très importante. J'y reviens tout de suite. C'est-à-dire que, donc, on avait dit au début de cet entretien que le PKK avait eu besoin d'alliances régionales pour devenir un parti dominant et surtout survivre aux différentes crises militaires qu'il a traversées. En 2014, Kobané est un pivot parce que le PKK passe d'alliances régionales qui jusque-là lui permettaient de se maintenir, notamment avec la Syrie et l'Iran, à un partenariat international avec les pays occidentaux, donc surtout les forces états-uniennes. Et cela est extrêmement important parce que ça va changer tout le positionnement stratégique du mouvement dans la région. Or, il y a donc deux discours à ce moment-là qu'on peut entendre au sein de l'élite du PKK. L'un est donc un personnel d'élite de cadres et de généraux du PKK qui sont en Syrie, qui sont là pour mener l'offensive aux côtés de la coalition, qui, eux, ont tendance à croire que ce partenariat avec les Occidentaux peut se transformer à terme en une alliance stratégique si les Américains décident de rester, d'ouvrir des bases pérennes en Syrie. Et une autre partie du mouvement qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, qui n'a de cesse à considérer cette relation avec les Occidentaux comme quelque chose de forcément à terme limité. Et ça crée une véritable tension dans le mouvement jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous avez des tensions au sein du leadership sur la stratégie adoptée par rapport à la relation avec les États-Unis, sachant que cette relation avec les États-Unis les empêche, en tout cas limite leur relation avec l'Iran ou avec le régime, dont ils ont besoin d'un accord avec ces deux anciens alliés pour survivre dans la région sur le long terme. Et de cette façon, 2014 est un vrai tournant, c'est-à-dire que non seulement le parti va pouvoir contrôler un territoire immense, donc le nord-est syrien, qu'il n'avait jamais fait jusque-là, et d'autre part va recevoir une aide colossale. Et une aide, et c'est là où la question de savoir s'il y a eu un pacte, une alliance, etc., scellée, est importante parce qu'en fait, cette aide que le PKK va recevoir, en fait, il la reçoit comme un blanc-seing de la part des Occidentaux, à condition de combattre l'État islamique. Et aucune contrepartie politique n'est demandée au PKK, qui va donc avoir le champ libre pour mettre en place sa doctrine et son mode de gestion des populations, ce qui évidemment crée de nombreux paradoxes, paradoxes entre le parti et ses anciens alliés, syriens et iraniens, qui jusqu'à aujourd'hui veulent lui faire payer cette relation privilégiée qu'il a eue avec les Occidentaux, mais également paradoxe pour les forces de la coalition qui se sont retrouvées donc à soutenir un parti qui est sur la liste des organisations terroristes et qui a fait la guerre contre la Turquie.
Oui, mais alors parlons-en.
Je rappelle qu'en 2015, en 2015, pour illustrer ça, en 2015, il y a donc un soulèvement kurde mené par le PKK en Turquie, qu'on va appeler la guerre des villes, qui va pousser la Turquie à devoir réagir extrêmement violemment pour reprendre la plupart des centres-villes des villes kurdes dans l'est de la Turquie. Et donc ça va se payer par des dizaines de milliers de morts, encore jusqu'à aujourd'hui on n'a pas le chiffre. Alors même que les Occidentaux sont en train de soutenir le PKK en Syrie, la Turquie est obligée de mener des guerres sur son territoire pour mettre fin à l'insurrection.
Oui, mais alors justement, parlons-en, parce que la Turquie, donc on a vu évidemment que c'était des relations conflictuelles depuis des années, que le PKK s'est fondé pour lutter contre le régime turc sur le territoire turc, mais en fait, la Turquie, elle faisait partie de la coalition contre l'État islamique. Donc comment est-ce que ça a été géré, si ça a été géré? C'est-à-dire comment est-ce que cette contradiction est apparue, même, enfin, je veux dire, dans les opérations? Enfin, les opérations contre Daesh, la Turquie en faisait partie, ou en tout cas, et au moins fournissait des bases arrières, notamment pour les forces aériennes de la coalition. Donc avec ce, comment dire, comment est-ce que a été géré sur le moment ce paradoxe que la Turquie soutenait les forces qui lui faisaient la guerre, si ce n'est au même moment, mais quelques années auparavant et encore quelques mois après?
Alors, c'est toutes les tensions souvent inhérentes aux interventions occidentales depuis les années 2000, pour être gentil, qui est en fait une multiplication des types de forces employées sur le théâtre d'opération. Donc, les forces spéciales américaines directement sous direction de la Maison-Blanche étaient, elles, en Syrie, auprès des Kurdes, alors que l'armée américaine, avec tous les paradigmes otaniens, etc., étaient, eux, axés sur la Turquie. Et c'était donc l'alliance stratégique avec la Turquie qui permettait à la coalition de mener des frappes contre l'État islamique, donc auquel la Turquie était associée comme beaucoup de pays de la région, et derrière, donc, des opérations type plus commando menées par des forces spéciales en Syrie. Et, par exemple, pour ne prendre que l'exemple des États-Unis, on était dans un vrai dilemme pour l'administration américaine, dont le personnel local était devait travailler et passer des accords avec les Kurdes, et l'état-major qui, lui, était sur un cadre otanien, plutôt sur une position turque, à vouloir stopper la relation avec le PKK, en tout cas essayer de la contrôler. Et cela, ça nous a conduit jusqu'en 2017, donc à octobre 2017, à l'offensive turque. L'offensive turque, en fait, résulte directement de ce paradoxe. C'est parce que les Occidentaux, les armées occidentales sont avec le PKK, ne donnent aucune garantie à la Turquie sur la manière de gérer, d'encadrer le PKK, sur les accords sur les armes, transfert de compétences et d'armement au PKK, que la Turquie, à un moment, se sent obligée d'intervenir pour limiter l'entreprise du PKK. Donc la Turquie se sent obligée d'intervenir en 2019 parce que, justement, le PKK met sous tension les troupes occidentales en utilisant leurs ressources pour construire son territoire et se faire créer une base arrière pour attaquer la Turquie. Et on a de nombreux exemples où plusieurs fois des accords, en tout cas des garanties, les Américains tentent d'obtenir des garanties des Kurdes, que les Kurdes ne respectent que très rarement. Finalement, des systèmes de défense des premières lignes du PKK sur la frontière turque sont démantelés, mais en fait on s'aperçoit que d'autres tunnels sont construits alors même que ces systèmes de défense sont démantelés, et donc ça pousse la Turquie progressivement, en voyant que les garanties américaines ne fonctionnent pas, à décider de lancer sa propre offensive.
on va en arriver maintenant à ces événements, donc d'octobre dernier, d'octobre 2019, qui ont, mais alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont semblé prendre tout le monde de court. Je vais juste rappeler très rapidement, c'est donc un retrait des troupes américaines de l'Est syrien, ce qui laisse la Turquie intervenir militairement dans la zone et notamment chasser les troupes kurdes. Dans une certaine mesure, on reviendra évidemment sur la mesure exacte de tout ça. Mais justement, ma première question serait de savoir si ça a vraiment pris tout le monde de court à l'automne 2019. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà plein de signes avant-coureurs. Déjà un an plus tôt, en 2018, Donald Trump avait parlé de retirer toutes les troupes américaines de Syrie. Puis il avait dû faire marche arrière, puisque son secrétaire d'État à la Défense, donc James Mattis, avait démissionné sur le champ, ainsi que l'émissaire spécial à la lutte anti-Daesh. Donc, d'une certaine mesure, c'était sur la table déjà depuis au moins un an. Et donc, parce que ça a été beaucoup construit et beaucoup raconté à ce moment-là, comme une trahison, un poignard dans le dos pour les forces kurdes, un truc auquel elles s'attendaient pas du tout. Mais vous, qui étiez sur le terrain à ce moment-là, est-ce que ça a vraiment pris les acteurs locaux et les états-majors kurdes de court, ou est-ce que c'était quand même, disons, quelque chose qui était sur la carte pour eux, un peu prévisible, et qu'ils ont géré, même s'ils n'avaient pas les moyens de le gérer, d'y faire face totalement militairement?
Alors, c'était quelque chose à laquelle ils se préparaient. Ils ne pensaient pas que ça arriverait comme ça. C'est-à-dire que la veille du départ américain, vous avez encore les cadres de l'administration américaine et les officiers en place qui disent aux Kurdes qu'ils restent, qu'ils ont réouvert des bases, qu'ils ont du matériel qui arrive, etc. Et dans la nuit tombe la décision du retrait. Et là, les Américains, donc en 24 heures, évacuent les bases et se retirent. Et là, on voit donc, en fait, ce qui est important, donc le pris de court, savoir qui a été pris de court exactement. Bon, la Turquie, tout le monde savait qu'elle massait des troupes à la frontière et que c'était avec une forte volonté d'intervenir, comme elle avait déjà fait pour empêcher le PKK de faire une continuité territoriale le long de sa frontière avec Afrin. Donc ça, c'était pas forcément très très étonnant. Et d'ailleurs, le PKK était plutôt bien préparé, avec des tunnels, des fortifications qui ont permis de ralentir l'offensive turque, même malgré le fait que c'est une zone très très difficile à descendre. Mais finalement, ceux qui ont été pris de court, c'est, je dirais même, le personnel américain sur place, les forces spéciales, le personnel civil ou militaire sur place, qui était dans une tendance très très autonome par rapport à l'ensemble de l'état-major de l'establishment américain, et donc finalement, qui laissait croire aux Kurdes qu'ils allaient rester, alors même que, évidemment, là dépendait de la décision présidentielle de Donald Trump. Et donc, finalement, c'est des Américains qui, eux-mêmes, se tirent une balle dans le pied. Hein, donc, on a l'armée américaine qui se retrouve, par certains endroits, bombardée, comme à Kobané, à quelques centaines de mètres de leur base, par la Turquie, tous les partenaires de la coalition qui sont également, qui se retrouvent sous le feu, à devoir évacuer en vitesse, dans des conditions extrêmement chaotiques pour la coalition, donc pas pour les Kurdes, hein, qui étaient préparés, où vous avez l'ensemble du camp de Ain al-Issa, qui est un camp où il y avait donc plusieurs familles de djihadistes enfermés, qui se retrouvent à partir dans la nature, quant au passage d'un convoi de la coalition qui bombarde autour de lui pour essayer de se frayer un chemin, jusqu'à l'est, dans l'est du, pour rejoindre l'est de la Syrie. Voilà. Et donc, en fait, c'est bien un dysfonctionnement interne à l'appareil politico-militaire américain qui s'est passé en octobre 2019.
Ouais, mais alors, du coup, c'est souvent la même question avec... on va pas faire non plus trop de la politique américaine, mais c'est souvent la même question avec Donald Trump. C'est-à-dire, c'est assez facile de l'interpréter, d'interpréter les décisions sous l'angle de la folie, de l'irrationalité, etc. Mais souvent, la question, c'est est-ce que c'est vraiment de la disruption des trucs imprévisibles, ou est-ce que c'est plutôt un révélateur des positions américaines? Et là, dans une certaine mesure, de ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, on a l'impression que, bon, certes, la manière est abrupte, mais que de toute manière, par leur alliance avec la Turquie et par leur alliance avec les Kurdes, qui est quand même moins important stratégiquement pour les États-Unis pour plein de raisons, de toute façon, les États-Unis étaient dans l'ornière et ça pouvait pas bien se terminer, quoi.
Tout à fait. Donald Trump n'a pas été irrationnel. On savait très, il maintenait cette position de départ depuis le début. Et il considérait les Kurdes justement comme un partenaire et pas un allié. Et il le rappelait souvent. Par contre, je dis bien qu'il y a eu c'est mon point de dire qu'il y a un dysfonctionnement au sein de l'appareil américain. C'est-à-dire que l'administration n'a pas cru son président et a tenté de jouer, en tout cas le personnel qui était en Syrie, contre la tendance, la politique générale. Et je sais, pour avoir interviewé et passé du temps avec l'ensemble des acteurs sur place, que beaucoup d'officiers et de personnel civilo-militaire américains sur place ont été mis au pied, ou en tout cas dû rendre des comptes de la politique qu'ils avaient menée de leur propre gré par rapport aux Kurdes, en promettant aux Kurdes des choses irréalisables, etc. Et ça a mis en fait tout le déploiement américain en Syrie sur la sellette, parce que d'un coup il a fallu retrouver des partenaires fiables, enfin en tout cas de confiance auprès des Kurdes, les Kurdes considérant ça comme une trahison, et de fait, je pense qu'ils avaient raison de le considérer comme tel, vu ce qu'on leur avait avancé. Et donc c'est bien un couac au sein de l'administration américaine. Après, la manière dont Trump a imposé sa décision, etc., de façon totalement non consensuelle, évidemment a renforcé ce problème. Mais je crois que c'est une question qui se retrouve dans l'ensemble des interventions occidentales de ces 20 dernières années, où il n'y a pas forcément d'objectif politique, voire pas du tout. Le politique n'est pas du tout abordé. Et donc on se retrouve avec des armées en roue libre ou des programmes civilo-militaires qui n'ont pas vraiment de fin et qui continuent tant que les financements continuent et qu'il y a un positionnement. Mais dès qu'il y a une décision politique qui a été prise, et la décision de Trump était politique, évidemment, ça met fin à, ça enraye totalement la machine avec des couacs immenses. Et les populations civiles en payent le prix.
Ouais, alors justement, parlons-en, entrons peut-être maintenant dans le détail de la manière dont ça... Donc on a bien compris qu'ils n'avaient pas été pris totalement de court, mais entrons maintenant dans la manière dont ça a été géré. Alors puisque vous y étiez sur le moment, d'abord peut-être dites-nous où vous y étiez, mais surtout ensuite ma question c'est comment est-ce que ça a été perçu et géré dans la région et par les Kurdes. Ce que je veux dire, c'est que les forces kurdes sortaient quand même de plusieurs années de lutte militaire extrêmement intense contre l'État islamique. Et je crois que l'offensive directe turque a fait un peu plus de 500 morts, bon, beaucoup, beaucoup de déplacés, mais un peu plus de 500 morts. Donc, disons, quelle est l'ampleur militaire réelle de cette intervention et de cette attaque turque? Dans quelle mesure est-ce que les Kurdes ont réussi à l'absorber et à la gérer ou pas? C'est-à-dire, quelle est son importance stratégique, puisque vous avez pu le voir sur le moment, en quelque sorte, aux premières loges?
Tout à fait. Le PKK a réussi à absorber cette offensive, a plutôt bien géré tout ce qui est question de la gouvernance, la réponse militaire proportionnée, et finalement s'en sort bien, alors que l'ensemble des acteurs étatiques de la région sont dans l'embarras et sont mis en difficulté. Hein. La Turquie a réellement grillé des cartes dans ses relations avec les pays occidentaux dans cette offensive, choisissant la manière forte. Le PKK, lui, s'en sort plutôt bien jusqu'à maintenant. Évidemment, à terme, les choses risquent de se retourner contre lui, mais voilà. Pour comprendre comment le PKK a fait pour absorber cette offensive, hein, qui était une véritable offensive, hein, avec des centaines de milliers d'hommes turcs, de l'armée turque mobilisée, des bombardements et finalement de ce que disent les troupes du PKK du Kurde en Syrie, ils disent l'armée turque était bien pire que l'État islamique, c'est-à-dire à combattre avec une aviation, une artillerie, etc. Finalement, le PKK a réussi à absorber ce que déjà sur le plan militaire, il était très bien préparé avec des tunnels, des brigades, environ 120 000 hommes mobilisables, dont peut-être seulement 15 000, 10 à 15 000 troupes d'élite qui ont vraiment combattu et tenu front, mais qui globalement avaient les moyens, non pas forcément de tenir le front, mais de tenir le territoire, les villes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de poche insurrectionnelle en arrière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que la police politique, le contrôle de la population est extrêmement serré. Ensuite, le parti s'appuie également sur une administration de plus de 250 000 fonctionnaires, avec notamment 40 000 profs, mais également toute une administration qui fonctionne à ses frais, avec des salaires relativement bien payés, environ 300 dollars par mois, alors que dans les zones régimes, les salaires vont entre 50 et 100 dollars par mois pour les fonctionnaires. Et finalement, le PKK a réussi à susciter, à maintenir, à être résilient grâce à son extraordinaire capacité d'organisation de l'économie, du social, créer des réseaux locaux, etc. Non pas que les gens soutiennent le PKK de plein gré, mais c'est la seule option viable qu'ils ont. Et donc la Turquie a échoué. La Turquie avait deux objectifs. Briser militairement le PKK. Ça, finalement, la Turquie n'a pas réussi. La Turquie cherchait un point d'annihilation pour créer une bascule stratégique, c'est-à-dire par exemple une bataille comme Kobané, bloquer plusieurs dizaines de milliers de troupes du PKK pour les anéantir et les défaire. Et le deuxième objectif, c'était de créer une situation chaotique, mettre le parti à bout dans ses modes de gestion des populations pour susciter soit la récupération, le retour de certains cadres de l'ancienne armée libre syrienne qui auraient pu essayer de reprendre certaines villes, et deux, permettre au régime de revenir dans le nord-est syrien suite à l'affaiblissement du PKK. Or, aucun de ces deux scénarios n'a fonctionné. Le régime a certes envoyé un peu plus de 2000 hommes, mais ça, c'était uniquement sur invitation du PKK qui a utilisé sciemment les troupes du régime comme bouclier dans des zones qu'il avait du mal à tenir face à l'offensive turque. Et donc, on voit bien là une véritable stratégie civile, économique, militaire, politique de la part du PKK qui lui a permis donc d'absorber cette offensive.
Ouais, mais alors on va peut-être en parler maintenant de ce rôle un peu compliqué du régime de Bachar al-Assad dans tout ça, dans cette intervention turque. Et pour en parler, il faut sans doute introduire maintenant un nouvel acteur qui profite de tout ça pour se replacer dans l'affaire et dans la zone. C'est la Russie. Alors la Russie, évidemment, c'est un allié, particulièrement depuis 2013 et notamment 2015, du régime de Bachar al-Assad. Mais quel est le jeu, expliquez-nous quel est le jeu des Russes dans cette situation, qui n'est pas une situation de retournement d'alliance, puisqu'on l'a dit, les Turcs sont des alliés des États-Unis, mais en tout cas de changement de priorité des Américains, qui laissent dans une certaine mesure les Kurdes sur le carreau. C'est-à-dire, comment est-ce que les Russes parviennent à se réinsérer, à redevenir un acteur de premier plan de tout ça, et je crois notamment en se servant précisément des forces sur le terrain, qui sont les forces, certes maigres et affamées, mais les forces quand même du régime syrien.
Très bien. Alors, les Russes jouent un jeu en Syrie extrêmement important pour eux. Il s'agit de se créer un accès en Méditerranée et aussi d'influencer la politique régionale au Moyen-Orient, chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire, même du temps de la guerre froide. Et le Moyen-Orient qui s'est construit comme un précaré américain fin des années 70-80. La Russie, donc, pour citer un diplomate russe, considère les Kurdes comme un mouvement marginal qui, à terme, doit rentrer dans le giron de l'État. Donc, pour citer ce diplomate russe, les Russes, ils commencent chez eux de dire qu'ils n'ont rien à offrir aux Kurdes, si ce n'est qu'un suicide politique ou une défaite militaire face au régime syrien. Les Kurdes, eux, le Parti État aimerait que les Russes se portent au garant d'un deal avec Damas qui permettrait aux Kurdes de re-rentrer dans une relation, négocier une relation, une place en Syrie auprès du régime. Mais évidemment, les Russes, déjà un, s'y refusent, n'ont pas assez de troupes en Syrie pour jouer ce rôle. Ils ont environ un peu plus de 2000 hommes. Ils ont surtout de l'aviation qui est là pour porter main forte. Et même leurs troupes auxiliaires, comme ceux de la compagnie Wagner, leurs paramilitaires, sont incapables de faire face à la machine de guerre qui est devenue le PKK. Il faut très bien comprendre que le régime est extrêmement faible, n'a quasiment plus d'armée. Ce qu'il lui reste, c'est entre 10 et 20 000 hommes sur lesquels il peut compter, sachant que la moitié est engagée dans la bataille d'Idlib, que la Russie mène auprès du côté du régime, ce qui demande énormément de ressources et d'attention de la part de la Russie. Et le reste de ces 20 000 hommes du régime doivent sécuriser les grandes villes, les grands axes, qui ont été certes repris par le régime, mais qui sont absolument pas acquis au régime. Et on l'a vu, par exemple, il y a quelques mois, la ville de Dera qui s'est à nouveau soulevée pendant 48 heures. Il a fallu reprendre à nouveau. Et évidemment, le harcèlement continu de l'État islamique, sachant que le régime n'a absolument pas ratissé les zones de l'Est de la Syrie où l'État islamique a des bases qui se maintiennent en toute impunité. Et donc, finalement, la Russie n'a absolument pas les moyens de peser dans l'équation par rapport aux Kurdes, ou alors pour le faire, il faudrait envoyer au moins 10 à 15 000 hommes de plus, ce que la Russie ne veut absolument pas faire. Derrière ça, par contre, Moscou suit une stratégie politique avec des objectifs extrêmement clairs en Syrie, qui c'est de restaurer le clan Assad au pouvoir et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Ce que les Occidentaux, eux, n'ont pas d'objectifs qui leur permettent à terme de poser des lignes claires et de pousser les acteurs à prendre des positions en vue de, justement d'une cessation du conflit. Donc de cette manière, la Russie a réussi à reprendre les cartes du conflit syrien en main et tente de se substituer aux Américains dans le Nord-Est. Et juste un mot là-dessus, en se substituant aux Américains, le problème, c'est que les Russes reprennent, se retrouvent à nouveau avec les paradoxes qu'avait l'armée américaine en Syrie, c'est-à-dire la Russie dépend fortement de la Turquie, pour plein de raisons qu'on n'évoquera pas ici, et ne peut pas donc s'allier aux Kurdes sans perdre sa relation que Poutine tente de mettre en place avec Erdogan. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, les Kurdes restent extrêmement marginales dans la stratégie russe en Syrie.
D'accord. Donc en fait, donc si on essaye de faire le bilan, il y a une offensive turque qui est un succès, en tout cas d'apparence militairement, au premier aspect, puisqu'il s'agissait de chasser, de repousser les forces kurdes, en tout cas de la frontière avec la Turquie. Bon, ça, au moins en apparence, c'est réussi. Malgré tout, cette offensive-là a été stoppée, notamment par la négociation, par l'intervention un peu américaine, puis aussi par le jeu des Russes. Et on a en quelque sorte une sorte de glacis, une sorte d'arrêt, où il y a des forces du régime de Bachar al-Assad au milieu, qui s'interposent plus ou moins entre les Turcs et les Kurdes, qui ont certes reculé, mais évidemment à qui il reste énormément de territoire dans l'Est et le Nord-Est syrien. Donc la question en quelque sorte maintenant, ce sont les perspectives. On a bien compris que les États-Unis faisaient profession de se désintéresser de tout ça, et on voit que ça reste une équation très compliquée pour tous les autres acteurs, puisqu'il y a plein de parties qu'il faut gérer. Donc ma question c'est, est-ce qu'on est sur une situation stable? C'est-à-dire, est-ce que dans une certaine mesure...
Absolument pas, c'est du provisoire qui dure. Et le PKK, encore une fois, est incapable de produire autre chose. C'est-à-dire que c'est un parti qui non seulement ne peut survivre sans une alliance étatique ou régionale, comme un partenariat régional, comme celui qu'il a eu avec les États-Unis, c'est un parti qui est incapable de créer des coalitions sociales dans les populations, c'est-à-dire qui gouverne soit de façon par la répression, soit par la cooptation d'élites et puis via son système institutionnel qui met en place, mais qui en fait ne suscite pas vraiment d'adhésion, en tout cas surtout. Appelle les gens au pragmatisme et pas plus. Et donc finalement, c'est un parti qui se retrouve sur la sellette en permanence et qui joue plutôt des failles du système international, donc interétatique, pour survivre, qu'il ne propose de solution et de stabilisation. Et c'est triste à dire, mais la vraie solution de stabilisation du nord-est syrien passe par le retour de l'État. Tout comme de l'État, donc je dis bien l'État syrien, pas forcément le régime syrien. Mais tout comme en Irak, la question kurde est fortement régulée par Bagdad, beaucoup plus que ce qu'on ne pense, la stabilité du nord de l'Irak, du Kurdistan irakien, dépend de la stabilité de ses relations avec Bagdad. Il en est de même en Syrie. Et tant que le PKK se positionne en tentant de capter un soutien russe, une alliance avec un partenariat avec les Occidentaux et des relations courtoises, pour pas dire plus, avec l'Iran et Damas, finalement, la solution n'est absolument pas pérenne. Et la situation reste extrêmement volatile, avec une possibilité de reprise d'une nouvelle offensive turque, d'un retour très violent des services de sécurité du régime syrien après plusieurs années, et ainsi de suite.
Ouais, mais alors du coup, c'est ça aussi. C'est est-ce que il est possible que la Turquie justement cherche à en remettre un coup en quelque sorte, ou est-ce que, disons, cette... Enfin, parce que la Turquie n'a pas non plus vocation à conquérir la moitié du territoire syrien, a priori.
Non, ce que veut la Turquie, c'est produire un choc. Donc oui, évidemment, la Turquie risque de réintervenir, pour tout l'ensemble des raisons qu'on a évoquées. Et ce que cherche la Turquie, c'est un choc, produire un choc qui déstabilise l'appareil, l'établissement du PKK et son système de gouvernance dans le nord-est syrien, permettrait au régime de revenir. Voilà, c'est ce que cherche la Turquie. C'est finalement très simple, et ce que avait sous-estimé la Turquie, c'est la capacité de résilience de ce modèle PKK, qu'elle n'avait jamais combattu en dehors de son territoire, à part quelques incursions de commandos dans le nord de l'Irak, et que personne, évidemment, ne pouvait jauger. Il faut se rappeler qu'en octobre 2019, au moment de l'offensive, l'ensemble des médias criaient à à l'effondrement du modèle kurde dans le nord-est syrien. Pour avoir été sur place, il n'en était absolument rien. Les populations étaient très très bien tenues, les prisons n'ont pas lâché. L'ensemble de l'établishment du PKK est passé dans la clandestinité pour continuer à disparaître. Hein. Vous pouvez appeler les téléphones, plus personne ne répondait, etc. Mais pas parce qu'ils avaient fui, parce qu'ils étaient rentrés dans des QG de commandement et qu'ils avaient la situation bien en main. Et finalement, la Turquie s'est heurtée à un mur qui était en préparation, en gestation depuis des années. Mais vu côté turc, il s'agissait de dire que vaut mieux intervenir maintenant, quitte à ce que ça coûte énormément dans leur partenariat avec les Occidentaux en termes de morts, etc., plutôt que d'attendre encore plusieurs années, voire plusieurs mois, et que la situation s'aggrave à nouveau. Et ce que voulait la Turquie, c'était la fin du soutien occidental aux Kurdes, ce qu'elle a partiellement obtenu, donc avec le retrait américain d'une partie du nord-ouest du nord-est syrien.
Et enfin, un dernier acteur dont il faut dire quand même un mot, c'est évidemment l'État islamique qui a régressé énormément, mais pas totalement disparu. Et donc, de savoir s'il y a un risque de remontée en puissance de l'État islamique. Je lisais dans une note que vous avez, une note de recherche publiée par l'Institut universitaire européen que vous avez publiée avec Patrick Henny, qu'à la suite de l'offensive turque, donc à la frontière, il y avait eu une hausse de 63% des activités de l'État islamique en aval. Donc, bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ensuite, est-ce qu'on assiste sur ce terrain qui a été pendant quand même plusieurs années le précaré absolu de l'État islamique, est-ce qu'on assiste à une vraie logique de reconstitution ou est-ce que ce sont des activités, disons, presque résiduelles et que, disons, la colonne vertébrale a été bel et bien brisée et durablement pour les années qui viennent?
Non, eh bien, l'État islamique, oui, déjà n'a pas été défait totalement et maintenant revient en force. Donc les attaques se multiplient partout sur le territoire du nord-est syrien. Comme je disais, l'État islamique n'a jamais été vraiment chassé des zones de l'est de l'Euphrate tenues par le régime. Il y a encore des bases, des positions, et les attaques contre les convois du régime sont hebdomadaires. Les forces kurdes ont réussi à limiter l'État islamique un bon moment, et surtout arrivent à contrôler bien les populations. Les populations elles-mêmes sont, contrairement à ce qu'on peut croire à Raqqa et dans l'ouest de Deir ez-Zor, rétives au retour de l'État islamique. Hein, on subit l'occupation, on subit les répressions de l'État islamique, et voire même avant, ont été engagés dans des mouvements révolutionnaires, révolutionnaires nationales, qui ont tenté de s'insurger pendant plusieurs mois d'affilée, combattre l'État islamique avant la chute de Mossoul en 2014. Donc on n'est pas sur un terreau forcément fertile au retour de l'État islamique. Par contre, l'État islamique a encore des capacités organisationnelles extrêmement importantes. C'est une organisation qui compte sur des militants aguerris, qui font un excellent travail de retournement des populations, de jouer sur des failles, de contrôle également de réseaux clandestins, qui permettent progressivement d'isoler les forces kurdes dans les zones arabes sunnites du nord-est syrien, et ensuite de retourner l'administration kurde pour l'utiliser à ses propres fins. Pour l'instant, l'État islamique n'est pas dans une stratégie de confrontation frontale, directe, bien qu'elle mène quelques actions armées de basse intensité. Pour l'instant, l'État islamique recrée ses réseaux, refait de la cooptation, récupère, pas besoin d'avoir des milliers de combattants en armes, 1 000 ou 2 000 suffisent, ou 3 000 peut-être, entre la Syrie et l'Irak. Le reste, il s'agit de recréer des cellules sur lesquelles s'appuyer, remettre en place une logistique et surtout pouvoir remettre en place un circuit économique permettant de financer le combat. Ce qui est très clair, c'est que l'État islamique attend le retrait des forces occidentales pour vraiment s'attaquer aux forces kurdes. Rien ne sert de lancer l'offensive trop tôt tant qu'il y a évidemment la présence des forces occidentales qui donne un avantage décisif aux Kurdes. Mieux vaut attendre soit un retour partiel du régime, soit un effritement du système kurdes dans le nord-est. Mais étant donné et c'est là où la décision unilatérale de Trump de retirer ses troupes pêche, c'est que un problème, c'est que rien ne dit que la situation est absolument pas périn, et rien ne dit que l'État islamique était défait au moment du retrait américain partiel du nord-est. Et donc la question entière reste présente. Que va-t-il advenir du retour de l'État islamique alors que le retrait occidental est et s'affirme de plus en plus.
Très bien, bah merci beaucoup Arthur Canet. Donc je rappelle et je conseille à tous ceux qui veulent approfondir le sujet cette note, qui est donc publiée par l'Institut Universitaire Européen, que vous avez publiée avec Patrick Henny, « Survivre à la disparition de l'État islamique, la stratégie de résilience du mouvement kurde syrien ». Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de commenter le podcast, notamment sur iTunes, puisque ça aide à le faire connaître et ça nous aide à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.